Radio Prague, les informations.
Deuxième journée de la visite du prince de Galles en République tchèque. Les sociaux-démocrates tchèques n'envisagent pas une coalition avec les communistes. La ministre de la Santé demande une plus grande participation financière de l'État aux soins médicaux. La deuxième journée de la visite de Charles, prince héritier de Grande-Bretagne, et de son épouse Camilla en République tchèque, est réservée à un programme privé. Charles et Camilla ont assisté dans la matinée de ce dimanche à une messe à l'église protestante Saint-Clément à Prague et se sont promenés dans le centre historique de Prague. Dans la soirée, ils assisteront à une représentation de l'opéra Don Giovanni de Mozart au Théâtre des États à Prague. Si le Parti social-démocrate tchèque gagne dans les prochaines élections législatives, il ne formera pas une coalition avec le Parti communiste. Une déclaration lors d'un débat télévisé par le chef de la social-démocratie tchèque Jiří Paroubek. Selon ce dernier, la social-démocratie préférera une coalition avec les partis qui se situent au centre de l'échiquier politique ou un gouvernement minoritaire. La ministre tchèque de la Santé, Dana Juráčková, demandera au Premier ministre et ministre des Finances d'augmenter la participation de l'État aux frais des soins médicaux pour les enfants, les retraités et les chômeurs. Elle a fait ses déclarations lors d'un débat à Česká televize, télévision publique tchèque. Les prix Thalia ont été remis aux meilleurs artistes du théâtre dramatique, de l'opéra et du ballet tchèque lors d'une cérémonie au Théâtre national de Prague. Parmi les distingués, il y a l'actrice du Théâtre national de Prague, Kateřina Burjanová, l'acteur Martin Pechla du Théâtre de la Comédie de Prague, la cantatrice Cilla Boros du Théâtre national de Brno et le chanteur Pavel Vančura du Théâtre František Xaver Šalda de Liberec. Ces jours-ci ont été inaugurées à Prague des foires de printemps. La plus grande foire se trouve sur la place de la vieille ville. De nombreux Pragois et touristes peuvent y assister à des productions musicales et y acheter des produits artisanaux et des spécialités culinaires tchèques. Météo. Ce dimanche, fête de tous les Radek, selon le calendrier tchèque, le ciel en Tchéquie est nuageux à couvert et il pleut par endroits. Les températures diurnes se situent entre 12 et 16 degrés pour les maximales. Lundi, le ciel en République tchèque sera variable à nuageux et il pleuvra par endroits. Les températures diurnes s'échelonneront de 10 à 14 degrés. C'était les informations de Radio Prague, présentées par Václav Richter.
Culture sans frontières, Anna Kubishta.
Bonjour à toutes et à tous. Le festival du film sur les droits de l'homme One World s'est achevé jeudi dernier, comme vous le savez. Parmi les films projetés à cette 12e édition, Mon voisin, mon tueur, de la réalisatrice franco-américaine Anna Guion. Pendant 10 ans, elle a tourné au Rwanda, dans un village en particulier, sur les conséquences du génocide de 1994 et sur le long et difficile processus de cohabitation entre les victimes et les tueurs. Comment vivre à côté de l'assassin de ses enfants? Comment réinsérer dans la communauté les bourreaux d'hier? Comment reconstruire une société divisée où les blessures sont encore à vif? Comment éviter encore qu'une telle tragédie ne se reproduise? Telles sont les questions qu'affrontent depuis quelques années Hutu et Tutsi et auxquelles les tribunaux appelés Gachacha tentent par une forme de justice particulière de répondre.
Il y a une trilogie de 3 films plus courts et Mon voisin, mon tueur, c'est le long. Qui englobe les 3.
Alors ces tribunaux spéciaux que vous évoquez dans vos documentaires, dans vos films, c'est des tribunaux qui s'appellent Gachacha. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que ça veut, comment oui. On peut le traduire et exactement à quoi ça correspond?
Gachacha, en fait, ça veut dire herbe, achacha. Et donc les gachacha, ça veut dire la justice sur l'herbe. Voilà, ça c'est la définition, enfin la traduction, définition du mot. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, les Rwandais ont mis en place ce système qu'ils ont basé, je dirais, sur un système traditionnel de résolution de conflits. Mais les anthropologues juridiques vous diront que quand on prend un système traditionnel et qu'on en fait une loi, c'est plus un système traditionnel, c'est une loi. Voilà, ils ont décidé de mettre en place cette loi qu'ils ont appelée Gachacha et qui prévoit, qui est une loi assez très compliquée, qui a beaucoup évolué au cours des années. Et cette loi prévoit que les gens qui sont accusés de génocide au Rwanda, s'ils avouent leurs crimes et si leurs aveux sont acceptés, prévoit qu'ils aient une remise de peine substantielle et que même ils fassent une partie de leur sentence avec du travail d'intérêt général.
Quand vous dites accepter, que leurs aveux soient acceptés, c'est accepté par les victimes et les juges,
hein ? Oui, on peut dire ça comme ça. Pour remettre les choses en contexte, il faut quand même pas oublier qu'il y a eu environ 800 000 morts au Rwanda. C'est un pays de 8 ou 9 millions d'habitants aujourd'hui. Et il y a environ 1 million de personnes qui ont été jugées par les Gacaca en 5 ans. Donc, le génocide s'est pas déroulé de façon uniforme à travers le pays et les Gacaca ne se déroulent pas de façon uniforme à travers le pays non plus. Les juges sont des gens comme vous et moi, normaux. Certains n'ont pas plus qu'une éducation primaire. Ils ont été formés extrêmement rapidement pour juger leurs voisins, quoi, leurs concitoyens. Donc, tout ça est très inégal.
Et ça coexiste alors en parallèle du tribunal pénal international pour le Rwanda, qui est encore évidemment une autre instance.
En fait, il y a trois, même quatre instances différentes de jugement des crimes de génocide au Rwanda. Il y a la justice traditionnelle rwandaise, enfin traditionnelle, c'est pas le bon mot, la justice normale, on va dire, rwandaise, c'est-à-dire que les tribunaux pénaux normaux, qui sont aujourd'hui censés juger les gens de première catégorie, qui sont donc des gens considérés comme étant des dirigeants, mais qui ont été arrêtés au Rwanda. Le tribunal pénal international, c'est pour les gens qui sont les gros planificateurs, mais qui ont été arrêtés à l'étranger. Donc il y a les Gacaca qui vient. Et puis il y a une quatrième juridiction, je dirais, qui est la compétence universelle. C'est-à-dire qu'il y a certains pays, comme la Belgique, mais donc il y a la compétence universelle, qui est d'une autre instance, qui permet théoriquement de juger des gens accusés de génocide arrêtés dans les pays en question.
Alors quand vous avez filmé justement ces cours, ces gachacha, c'est un face-à-face qui doit être terrible, hein, entre les victimes et les bourreaux. Quelles sont les réactions justement de ces personnes, de ces accusés ? Est-ce qu'il y a une prise de conscience ? Est-ce qu'il y a du remords ?
Je dirais qu'il y a assez peu de remords. La culture rwandaise veut qu'on ne partage pas ses émotions en public.
Et donc, c'est paradoxal alors d'avoir ces tribunaux finalement en plein jour, en plein public et en plein air.
Absolument, mais absolument, c'est paradoxal. Mais on n'est pas censé montrer ses émotions. Donc ça veut dire que on n'est pas censé pleurer, on n'est pas censé, enfin bon, tout ça. On n'est pas, et je pense que ça c'est pour, du côté des victimes, hein, du côté des rescapés, on n'est pas censé montrer sa douleur, etc., etc. Et je pense qu'il y a un peu de la même chose pour les gens qui ont participé au génocide et qu'ils ont... Je cherche pas du tout à excuser quoi que ce soit, hein, mais effectivement, il n'y a pas de remords, mais c'est une façon aussi, je pense, pour eux, de se protéger de leurs propres émotions. Hein. C'est pas facile je dis des choses toujours très compliquées et terribles à dire, mais c'est très facile pour nous d'identifier aux victimes et aux rescapés. C'est pas du tout facile pour nous d'identifier aux tueurs, aux gens qui ont participé, et je crois que c'est très compliqué d'imaginer la douleur que ça peut représenter pour eux. D'être confrontés comme ça à leurs actes. Donc ils ont besoin, enfin j'imagine, hein, qu'il y a un besoin d'une espèce de distance comme ça par rapport à leurs émotions.
Et par exemple les victimes, est-ce qu'elles vous ont dit que ça les soulageait d'entendre quand même certaines choses qui sont dites, puisqu'il y a quand même des choses qui sont dites?
Oui, je pense qu'ils ont... Enfin, ça dépend. Les gachachas, c'est très compliqué. Enfin, les gachachas, c'est pas les gachachas, mais c'est très compliqué tout ce processus, parce que c'est pas tout blanc et tout noir. Je veux dire, ce processus a rouvert des blessures, et rouvre des blessures que les gens ne voudraient pas avoir à confronter, mais en même temps, je pense que dans certains cas, ça les soulage aussi.
D'ailleurs, ça s'incarne aussi dans un cas particulier, puisque vous filmez aussi ces femmes Hutus mariées avec des Tutsis, qui eux-mêmes ont été massacrés souvent par des Hutus. quand vous disiez justement que c'est pas dans la tradition rwandaise de s'exprimer, comment est-ce que vous avez réussi à mettre en confiance toutes ces personnes pour que justement elles vous disent ce qu'elles ressentent, et surtout je suppose qu'il y avait la barrière de la langue.
En fait, j'ai travaillé avec les mêmes collaborateurs quasiment depuis le début. Donc j'avais un traducteur, enfin plusieurs, mais un principal, un interprète rwandais. Et j'ai choisi les gens, non pas parce qu'ils étaient bons interprètes, mais parce qu'ils avaient un bon contact avec les gens. Je pense que on a passé tellement de temps là, on est revenu tellement souvent sur voir les mêmes gens. Et à un moment, je suis un peu devenue, je fais partie de la famille, quoi. Ils me disaient, oh, t'as grossi. Oh, t'as bonne mine. Voilà, je dirais, personne n'a passé autant de temps à revenir comme ça sur une même colline pour voir comment les gens réagissent, quoi. Je veux dire, c'est à peu près 10 ans, c'est énorme.
Alors en plus, le Rwanda, on en parle beaucoup ces derniers temps, puisque le 25 février dernier, Nicolas Sarkozy est allé au Rwanda. Évidemment, on parle beaucoup depuis plusieurs années du rôle de la France dans le génocide. Il a parlé d'erreurs, il a parlé de formes d'aveuglement de la France à ce moment-là, mais il n'y a pas eu d'excuses. Est-ce que c'est déjà beaucoup d'après vous, ou c'est trop peu?
Vous savez, c'est très... comment dire ? Je pense que c'est bien. Hein. Je pense que c'est très bien. Je pense qu'il faut commencer quelque part. Il y avait peut-être des gens qui attendaient des excuses aujourd'hui, mais je pense que c'est de la même façon qu'avec les gens, ce sont des processus très longs d'arriver à admettre ou à reconnaître ou à voir ou à entendre les choses. Je pense que c'est la même chose dans ce cas précis, quoi. Il faut du temps pour que les choses trouvent leur place, quoi, et que chacun trouve sa place.
Est-ce que ce film Mon voisin, mon tueur, vous l'avez montré au Rwanda, aux Rwandais, oui, aux personnes?
Oui, absolument. Ils l'ont vu.
Quelles étaient leurs réactions?
Écoutez, je crois qu'ils sont très contents que le film existe. C'est pas facile, hein, pour eux de le voir, mais ils sont très contents que le film existe. Ils sont très contents d'y avoir participé. Ils ont vraiment... J'ai fait une projection à Kigali en décembre. Et c'était une projection officielle à laquelle j'étais invitée, tout ça. Et j'ai invité quelques personnes du village à venir, de la colline. Et ils ont vraiment pris la mesure de ce à quoi ils avaient participé. Ça, c'était formidable. À chaque fois, j'ai montré le film sur la colline, mais ça, c'est pas pareil. Je veux dire, mais il y a un jeune homme qui est un des juges des Gachacha, qui était un rescapé et qui a été secrétaire des Gachacha pendant longtemps sur la colline, et donc qui prenait des notes dans des petits cahiers d'écoliers, qui sont les cahiers sur lesquels sont enregistrées les minutes des procès à la main. Après la projection, il m'a dit: c'est formidable parce que nos cahiers peuvent être brûlés, ils peuvent être déchirés, ils peuvent être disparaître, mais le film ne disparaîtra pas, donc l'histoire de la colline est racontée.
Est-ce que vous avez l'impression que finalement ce film aussi participe de ce processus de guérison?
Absolument.
De réconciliation?
De réconciliation, j'aime pas du tout le mot réconciliation, parce que c'est un mot qui en demande trop. Je pense que ce qu'on a aujourd'hui, c'est de la coexistence pacifique au Rwanda, et c'est déjà beaucoup. Mais oui, je pense que à tous les stades du processus, le film a joué un rôle. C'est-à-dire que le fait de filmer a fait que les gens se sont posés des questions qu'ils ne se seraient pas forcément posées, qu'ils ont utilisé la caméra comme médiatrice presque, hein, pour dire des choses qu'ils n'auraient pas dites. Et certainement, ils ont réfléchi à des choses auxquelles ils n'auraient pas pensé. Et aujourd'hui, je pense que le fait que le film soit montré a aussi un effet thérapeutique sur eux, sur les gens qui ont participé. Parce qu'ils ont le sentiment qu'ils ne sont pas oubliés.
Est-ce que vous allez retourner au Rwanda pour filmer encore, ou en tout cas personnellement?
Non, j'ai fini de filmer là, c'est bon.
La boucle est bouclée,
en tout cas pour l'instant. Maintenant, retourner au Rwanda, oui. Enfin, je veux dire, j'essaye de mettre en place aujourd'hui une série de projections de ciné mobile à travers le pays pour montrer le film et démarrer des groupes de discussion autour du film. Il faut savoir que les Gachacha vont bientôt s'arrêter. Elle devrait déjà être arrêtée, mais ça dure encore un peu. Et que c'est l'espace de parole qui existe aujourd'hui, grâce au gachacha toutes les semaines, même si avec tous les problèmes qu'il y a hein, autour des gachachas, c'est pas un truc tout rose, loin de là. Mais l'espace de parole va disparaître. Et l'idée, c'est d'utiliser le film pour continuer ça. Sachant que le deuxième film que j'ai fait, je l'avais montré au Rwanda, il y a environ 40 000 prisonniers qui l'ont vu, dans les prisons et dans les camps de rééducation, enfin tout ça. Le deuxième film était spécifiquement sur l'impact du retour d'un prisonnier sur le village, sur la colline. Et donc le deuxième a été montré dans ce contexte-là, pour que les prisonniers en instance de retour sachent un peu à quoi ils allaient être confrontés. Je travaille là-dessus, et puis j'essaye de mettre en place une série de projections aussi, un cinémobile au Cambodge. Je dirais qu'au Rwanda, l'idée étant de montrer le film à des gens qui n'ont pas vécu la même chose que ce que les gens ont vécu, qui racontent leur histoire dans le film. Et c'est pareil, mais c'est simplement un échelon plus avancé. De le montrer au Cambodge ou dans d'autres sociétés en transition qui ont vécu ce type de situation et qui peuvent s'identifier à ce qu'ils voient à l'écran, ce qu'ils voient sur l'écran, et donc réfléchir à leur propre situation sans se mettre en danger directement, psychologiquement, parce que c'est leur histoire.
La réalisatrice franco-américaine Anna Guion était l'invitée de Culture Sans Frontières cette semaine pour évoquer son film sur le Rwanda, Mon voisin, mon tueur, présenté dans le cadre du festival du film sur les droits de l'homme, One World. Merci de votre fidélité. À bientôt. Ahoy.
Vous avez dit la République tchèque. Voyagez donc, Jarka Gregorova.
La saison du carnaval à Prague est bel et bien terminée. Les fêtes de Pâques approchent. Mais le prestigieux atelier Francis Vussin, créateur de fidèles répliques de masques, costumes traditionnels et accessoires à la mode du XVIIIe siècle, prépare déjà la collection pour le carnaval de Prague 2011. L'atelier porte le nom du célèbre graveur pragois Jan Samuel František Vussin, Francis Vussin, dont le portrait peint par Petr Brandl se trouve dans la Galerie nationale de Prague. L'atelier Francis Vussin a été fondé par l'architecte et designer Rostislav Maria Müller, avec pour objectif de faire revivre la tradition des bals masqués de Prague, interrompue avec l'éclatement de la Seconde Guerre mondiale et reprise à l'initiative des époux Müller. Laissons-nous emporter à l'époque du baroque pour nous perdre dans le froufrou des magnifiques tenues de carnaval en tissu noble, portées par les belles dames et charmants gentilshommes, aux visages couverts de masques de formes des plus étranges, des plus inventives et d'une beauté surprenante. Rostislav Maria Müller, designer et fondateur de l'atelier Francis Vussin, nous donne quelques précisions sur la famille Vussin.
Tato rodina vlastnila v Praze.
La famille était propriétaire d'un hôtel particulier rue Masna à Prague où elle organisait des bals masqués de grande renommée dans un style baroque et plus tard rocaille d'après le modèle vénitien. Auparavant, les bals masqués étaient organisés en privé dans les somptueux palais de la noblesse tchèque. Puis à l'époque du baroque, les bals ont été déplacés au XVIIIe siècle dans les salles des hôtels particuliers que les familles aristocratiques louaient et payaient. Le plus célèbre des hôtels particuliers était justement le palais Vussin, devenu au XVIIIe siècle le centre des bals et divertissements. C'est donc là que se déroulaient les fameux bals masqués de l'aristocratie et plus tard, au XIXe siècle, les bals bourgeois.
Plesu a posléze i měšťanský v 19. století.
La tradition des bals masqués de Prague date déjà de l'époque du gothique. Gérée par le peintre italien Giuseppe Artimboldo, arbitre de l'élégance et designer des masques à la cour des Habsbourg à Prague, à l'époque de la Renaissance, les bals masqués ont connu leur plus grand essor et gloire à l'époque du baroque. Le plus ancien sauf-conduit impérial sur l'organisation des bals, excepté ceux du Mardi Gras, date de 1742. Il a été délivré au bourgmestre de Prague, Jan Václav Friedrich de Friedenberg, qui épousa la fille de Francis Vucin, Francesca. Ce privilège a été successivement confirmé par l'impératrice Marie-Thérèse et l'empereur germanique et co-régent des États de Habsbourg, Joseph II, puis par l'empereur François Ier. La tradition a donc commencé à se perdre avant la Seconde Guerre mondiale et a complètement disparu sous le régime communiste. Vers la fin des années 1990, la photographe et scénographe Zlatusze Józefa Müller et son mari, l'architecte et designer Rostislav Maria Müller, se sont posé la question de savoir pourquoi il n'y avait plus de bals masqués et de carnaval à Prague. Ils ont alors commencé à caresser l'idée de faire revenir cette belle et noble tradition. Ils se sont lancés dans des recherches sur l'histoire de ces festivités et ont organisé de grandes soirées masquées. Rostislav Maria Müller.
My jsme dlouhodobě vlastně plánovali znovu oživení pražské.
Depuis longtemps, nous avions en tête l'idée de renouveler la tradition du carnaval de Prague, dont l'existence remonte plus ou moins au XIIIe siècle. Les bals et les festivités du Mardi Gras faisaient partie de la vie culturelle en Bohême et sont arrivés avec d'autres aspects de la culture. Le mot carnaval vient de l'italien carnevale, ou plutôt encore du latin, et signifie littéralement enlever la viande. Le Mardi Gras était célébré par toutes les couches de la société, le peuple le fêtait dans la rue et l'aristocratie organisait des bals et d'autres divertissements qui étaient le point culminant de la saison du carnaval. Dans le cadre de nos recherches, nous avons obtenu des informations concernant les différentes périodes, dont l'une d'elles est le XVIIIe siècle, où les bals étaient organisés au palais Vucin. Le premier bal a eu l'honneur d'accueillir Mozart, qui avec Giacomo Casanova est devenu un habitué de ces bals. Nous nous sommes donc concentrés sur l'origine, la réalisation et l'aspect des masques. Nos recherches concernaient évidemment aussi les costumes et accessoires qui font partie intégrante d'une soirée dans un style baroque et rocaille.
Les masques et les costumes produits par l'atelier Francis Vucin, dégageant des temps depuis longtemps révolus, ont pu être admirés à l'occasion du prestigieux Crystal Ball qui a eu lieu le 13 février dernier au somptueux palais Klamgalas, dans le centre de Prague, dans le cadre du Bohemian Carnaval, organisé par les époux Müller. Et c'est Rostislav Müller qui nous confie le secret de la confection des masques et costumes éblouissants, entièrement faits main avec des bijoux en cristal de Jablonec. Rostislav Maria Müller.
Nous nous efforçons de respecter l'ancienne procédure de réalisation des masques. Au fil des siècles, les masques ont été produits de différentes façons. Au XVIIIe siècle, on utilisait ainsi la méthode papier-mâché, en italien la carta pesta. Les masques de notre atelier sont confectionnés à la méthode papier-mâché, donc avec des coupures de papier qui sont pressées dans des moules en plâtre étendus de brocart ou d'autres tissus nobles. À la fin, les masques sont décorés avec des cristaux de bohème, d'or et d'argent. C'est la touche finale. Il est indispensable que les masques soient assortis avec les costumes. Le tissu du costume est identique à celui des chaussures et du masque. On respecte donc toutes les disciplines artisanales utilisées autrefois. Actuellement, on prépare déjà les masques pour la prochaine saison. Il s'agit d'une collection de 12 modèles qui seront présentés à l'ouverture du Carnaval de Prague. C'est le même cycle que pour les défilés de mode actuelle, mais c'est la mode du XVIIIe siècle.
En 2009, l'atelier Francis Vucin a ouvert un atelier de couture et on peut retrouver les masques de carnaval à la Ruelle d'Or où il est possible de les acheter ou simplement de les admirer. En mai, l'atelier ouvrira au centre d'information au Palais Colorado Mansfeld, également renommé dans le temps par ses bals masqués. Non Et à la fin, une petite idée de plat que l'on mangeait au XVIe, au XVIIe et aussi au XVIIIe siècle en Bohême. À l'occasion des fêtes, on servait surtout du canard, des coques de bruyère, des paons et des écureuils considérés comme un vrai délice. À profusion et du pauvre rôti à la broche que l'on laissait ensuite mijoter dans du roux aux prunes et au vin rouge. Les boulettes de viande de veau étaient également un plat très apprécié. Et voici la recette baroque. Il vous faut du veau, des œufs, du vin blanc, du persil frais haché, du safran et du poivre. La quantité dépend de vos goûts. D'abord, il faut hacher la viande de veau, ensuite ajouter le vin, les œufs, le persil haché et le safran. Bien mélanger le tout, puis vous formez les boulettes et les cuire dans l'eau. J'espère que ce plat vous plaira. Je vous souhaite bon appétit. L'émission de Radio Prague en langue française se termine, chers auditeurs. Toute l'équipe vous remercie de votre attention et nous sommes toujours prêts à recevoir vos remarques, idées et suggestions.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 hours UTC on 9880 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 2230 hours on 7355 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 2230 hours on 7355 kHz. In Eastern Africa, tune in at 0430 hours on 9855 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1400 hours on 11600 kHz. And in North America, you can hear Radio Prague at 2100.